La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis aujourd'hui à nouveau avec Lionel Dahan, qui est spécialiste de l'étude de la plasticité synaptique induite par l'apprentissage et de la mémoire. Et nous avons, la semaine dernière, beaucoup parlé justement de la manière dont fonctionnent les divers types de mémoire, en particulier la mémoire épisodique, qui est la mémoire courante, celle dont on a l'habitude de parler. Et on a vu que cette mémoire épisodique fonctionne grâce, enfin en grande partie, grâce à une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et donc, nous allons parler à nouveau de cette mémoire épisodique et aussi des diverses sortes de systèmes d'apprentissage. Bonjour Lionel.
Bonjour Sylvie.
Donc, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de cette mémoire épisodique par rapport à la mémoire sémantique ou procédurale ?
Effectivement, la semaine dernière, on avait parlé des différents types de mémoire et notamment du fait que chaque mémoire implique l'activation de réseaux cérébraux différents. Moi, mon travail, il porte surtout sur le fonctionnement de l'hippocampe et la mémoire épisodique. Et quand on le travaille comme moi sur l'animal, chez la souris, parce qu'évidemment, les souris, on ne peut pas leur demander de raconter leurs vacances.
Oui, c'est d'ailleurs qu'il faut savoir que les souris sont les animaux d'étude. Tu peux peut-être en dire quelques mots, parce que les gens peuvent se demander est-ce que ces pauvres souris, on leur fait beaucoup de mal. Tu peux dire un petit peu peut-être comment les choses se passent.
Alors, en neurosciences, on peut étudier la mémoire, par exemple, ou l'activité du système nerveux sur plein d'espèces différentes, hein, en fait. On travaille, évidemment, beaucoup plus sur la souris que sur d'autres espèces. Mais comme je disais la semaine dernière, il y a des gens qui travaillent sur la mémoire chez le blob, qui n'est pas du tout un mammifère. Mais quand on commence à réfléchir, à essayer de comprendre comment fonctionne notre mémoire à nous, on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe chez le mammifère, parce que c'est les animaux qui ont des systèmes nerveux qui se rapprochent le plus du nôtre. Et on trouve des similitudes flagrantes. Donc il y a plein de modèles d'études en neurobiologie.
Et on peut dire aussi sur l'être humain, quand il y a un problème comme ce dont tu as parlé la dernière fois, d'épilepsie par exemple, ça permet de comprendre beaucoup de choses comme on a vu la dernière fois.
Et effectivement, quand on peut, par exemple, les patients épileptiques pourraient aller identifier les zones cérébrales qui sont sujets à l'épilepsie. Parfois, on implante des électrodes et on va, pour essayer de détecter précisément où est l'épilepsie, et on va pouvoir sortir de petites électrodes pour aller enregistrer l'activité neuronale. Et ça nous permet, dans ces cas-là, d'aller faire exactement la même chose que ce qu'on a l'habitude de faire chez la souris, chez l'humain. Mais pour ça, heureusement, on a eu l'expérience de le faire chez la souris, ou chez le rat, ou dans d'autres espèces. Et c'est grâce à ça qu'on est capable de le faire maintenant chez l'humain, et qu'on est capable aussi même de commencer à faire des interfaces homme-machine. Vous avez très certainement entendu parler des interfaces qui permettent notamment à des gens qui n'ont plus la possibilité de bouger, de communiquer.
Ah oui, c'est assez extraordinaire.
Voilà, c'est assez extraordinaire. Et ça, mais ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu cette expérience qui a été accumulée par des milliers de gens depuis une centaine d'années sur l'activité, l'enregistrement de l'activité chez l'animal.
J'ai envie de dire une chose qui est importante pour les gens et que tu m'as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas de souffrance là-dedans et que de toute façon, ils pouvaient pas, comment dire, il fallait qu'il n'y ait pas de souffrance pour pouvoir faire cette étude.
Donc, oui, effectivement, ça dépend beaucoup des champs de recherche. Mais quand on fait de la recherche en neurobiologie et en comportement ou dans la mémoire comme moi je le fais, c'est extrêmement important. Alors, d'abord d'un point de vue éthique, parce que personne n'a envie de faire souffrir un animal de toute façon. Enfin, en tout cas, dans les gens que je connais, personne n'a cette envie-là. Mais en plus de ça, d'un point de vue purement pragmatique, si les animaux souffrent, ils se comportent mal. C'est très difficile d'étudier le système nerveux ou le comportement d'un animal qui est en train de souffrir. Et en plus, ça aurait probablement beaucoup moins de sens.
D'accord. Et donc, on parlait de l'apprentissage. On va peut-être revenir sur l'apprentissage, les diverses formes d'apprentissage, les neurotransmetteurs et comment on peut activer plus cette transmission.
Alors justement, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que pour pouvoir apprendre, il faut modifier la connexion entre les neurones. Et comment est-ce que c'est possible de modifier la connexion entre les neurones ? Comment ça fonctionne ? C'est un sujet qui est non seulement passionnant, mais crucial pour essayer de pouvoir interférer avec ça, pour pouvoir soigner des amnésies, pour pouvoir mieux comprendre, mais aussi mieux intervenir sur ces phénomènes qu'on va appeler de plasticité synaptique. La plasticité synaptique, c'est la modification de la connexion entre les neurones ou de l'intensité de la connexion entre les neurones. Et donc ça arrive tous les jours en fait, en continu. Les connexions qu'on a entre nos neurones, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui va être modifié minute par minute, seconde par seconde, en continu, en fonction de ce qui nous arrive. Ce qui fait que finalement, notre psychisme, notre pensée, notre être, ce qui fait nous-mêmes, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est sans arrêt fluctuant.
Alors moi, j'ai une question, parce que tu nous as expliqué que l'épilepsie, c'est quand tout fonctionnait de façon anarchique. Il y a une organisation, là, parce que là, on parle de transmission d'informations de neurone à neurone, mais pourquoi il y a des neurones qui ont une information et d'autres qui ne l'ont pas?
En peu de temps, c'est compliqué de répondre à cette question, mais ce qui est important, c'est que cette organisation, ça va donner des canaux d'information qui sont précis. Et tout ça, ça vient au départ de la sensorialité. Donc on a des récepteurs sensoriels qui sont des neurones, hein, dans la peau, dans les yeux. Et donc ça crée notre sensibilité. Et ces informations sensorielles, elles arrivent dans un cerveau qui a une certaine organisation qui va traiter ces informations et qui va se façonner depuis la naissance en fonction de l'activité de ces récepteurs sensoriels. Mais si on veut en revenir à la mémoire, dans l'hippocampe, on a des entrées sensorielles qu'on va dire fortement intégrées. Dans le cortex, toutes ces entrées sensorielles vont s'agencer les unes avec les autres. Et dans le cortex cérébral, on a différents étages. Donc on a par exemple une aire qu'on appelle l'aire V1, qui est l'aire visuelle primaire, qui reçoit des informations et qui va avoir des neurones qui vont coder. Alors coder, ça veut dire émettre des potentiels d'action en fonction de l'orientation et des stimuli visuels et de leur intensité.
Les neurones sont spécialisés suivant des régions cérébrales.
Et en fait, il faut le voir ça comme quelque chose avec une architecture pyramidale. Il y a des neurones qui codent pour la couleur, il y a des neurones qui codent pour l'orientation, il y a des neurones qui codent pour l'intensité. Et ils vont envoyer leurs informations à des niveaux un peu plus supérieurs dans le cortex, qui vont coder pour la couleur et l'intensité, etc. Et à la fin, on va avoir des neurones qui vont coder pour différents objets. Et ces centres qu'on va dire intégrateurs, qui récupèrent l'information de plein d'endroits différents, vont arriver à un moment à envoyer des informations à cet hippocampe. Donc l'hippocampe, lui, il récupère des informations qui sont déjà fortement traitées. Donc il va avoir des concepts, des objets, des situations qui vont arriver. Et lui, son travail, ça va être uniquement de faire des liens entre ces différents concepts, entre ces différents objets, des liens entre eux et puis des liens dans le temps. Donc il va créer un épisode. Il va créer cette mémoire épisodique. Et pour créer cette mémoire épisodique, il faut modifier la connexion entre certains neurones dans l'hippocampe. Alors, comment ça marche ? L'idée de cette plasticité, de cette modification des connexions entre les neurones de l'hippocampe, ça vient de Donald Hebb, qui est un psychologue canadien, qui lui travaillait sur des réseaux de neurones artificiels. Il essayait d'imaginer, avec les premiers réseaux de neurones artificiels, les premiers ordinateurs, comment est-ce qu'on pourrait fabriquer une mémoire. Il en est arrivé à l'hypothèse que si deux neurones déchargent en même temps, et même si un neurone A participe de façon répétée et fréquente à l'activité d'un neurone B, alors à ce moment, il faudrait un mécanisme qui permette l'augmentation de la transmission entre ces deux neurones. Et si on avait ce mécanisme-là, ça suffirait à faire émerger une mémoire dans le réseau. Alors ça, ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui s'est posé la question théorique au départ. Et au passage, c'est un psychologue qui travaille avec les premiers ordinateurs. Je trouve ça amusant. Il a écrit cette théorie qui finalement est restée à la postérité parce que en 73, il y a des biologistes qui travaillent sur complètement autre chose, qui travaillent sur comment est-ce qu'on passe du codage en fréquence des potentiels d'action à la libération de neurotransmetteurs, comment ça fonctionne, etc., et qui se mettent à enregistrer des neurones en stimulant leurs afférences, en stimulant les neurones qui viennent leur envoyer des messages. Et ils jouent à stimuler à des fréquences différentes. Des fréquences, c'est-à-dire nombre de potentiels d'action par unité de temps qui varie, et ils se posent la question de comment est modulée cette libération de neurotransmetteurs. Et donc, ils font une expérience où ils stimulent de façon répétée. Alors, tout ça se passe dans un cerveau de lapin anesthésié. Et ils se rendent compte que si à un moment donné, ils stimulent à haute fréquence, à ce moment-là, sur le long terme, les neurones postsynaptiques deviennent plus sensibles à la stimulation des neurones présynaptiques. Donc on a augmenté la transmission à cette synapse, juste à un moment, stimulant de façon très forte. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'effectivement, quand ils stimulent à haute fréquence, ils forcent le neurone B à répondre à la stimulation du neurone A. Donc en fait, ils font exactement, sans l'avoir prévu, ils se mettent dans une situation où, comme le disait Hebb, le neurone A participe de façon répétée et fréquente à l'activité du neurone B. Et donc, ils découvrent le corrélat biologique de ce qu'avait imaginé Hebb. Mmh. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que si on n'avait pas l'hypothèse avant, on n'aurait pas trouvé ça intéressant. Et si on n'avait pas eu la vérification expérimentale, bah, l'hypothèse serait très certainement tombée dans l'oubli. Mais le fait qu'il y ait ces deux choses en même temps, ça a forgé ce concept-là. Alors, depuis, on a étudié ça en long, large et en travers. Il y a des centaines et des centaines d'équipes qui travaillent là-dessus depuis des années. Et on a réussi à décortiquer tout le mécanisme. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que quand on comprend le mécanisme, on peut revenir à la fonction. Et quand on a des questions sur la fonction, on peut aller dans le mécanisme. Et finalement, c'est en comprenant comment ça marche qu'on comprend vraiment de quoi on parle. Et pour la mémoire, c'est tout à fait ça. En comprenant les mécanismes de cette plasticité, de cette modification dépendante de l'activité de la transmission synaptique, eh ben, on comprend un peu qu'est-ce que ça veut dire la mémoire, de quoi on parle quand on fait ça. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de faire l'aller-retour entre qu'est-ce que c'est que la mémoire, se poser des questions avec les psychologues sur comment ça fonctionne la mémoire, et puis revenir aux mécanismes, et en fonction des mécanismes, voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ce qu'ont montré les gens, là, bien 80 ans de recherche mondiale sur le sujet, c'est que la transmission dans l'hippocampe, elle est assurée principalement par un neurotransmetteur qui est le glutamate. Et donc, sur les neurones postsynaptiques, il y a des récepteurs au glutamate. Sur les neurones présynaptiques, il y a des vésicules qui permettent de libérer ce glutamate. Et quand on stimule à haute fréquence, en fait, on libère beaucoup de glutamate. Et ça permet d'aller activer un type de récepteur particulier qu'on appelle le récepteur NMDA. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais ce récepteur, il va être activé uniquement s'il y a beaucoup, beaucoup de glutamate qui est libéré et seulement si le neurone postsynaptique est activé en même temps que le neurone présynaptique. Donc, c'est un sorte de déclencheur de la plasticité. Et quand lui, il est activé, il va faire rentrer du calcium dans la cellule postsynaptique. Et ce calcium, c'est vraiment un signal. Alors, en biologie cellulaire, c'est un signal classique que du calcium rentre dans la cellule. Et ce calcium, ça va activer toute une série de cascades moléculaires qui vont provoquer des changements. Ça va même aller jusqu'à déclencher l'activation de certains gènes. Donc, il y a des gènes qui étaient au repos, qui permettaient pas l'expression de protéines, qui vont fabriquer des nouvelles protéines, qui vont venir se mettre dans la synapse et qui vont permettre de la faire grossir. Et ça va augmenter la transmission entre A et B.
Oh bah écoute, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais là, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission, donc il va falloir reparler de tout cela et continuer dans une prochaine émission. Tu veux bien revenir avec nous la semaine prochaine ?
Oui, sans problème.
À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.